Plus d'un an de fermeture, comment allez-vous ?
Psychologiquement, c'est très impactant de se dire que va-t-on devenir ? Chaque matin, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à cette situation en me disant mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Et vous imaginez que ça chamboule toute votre vie. On a construit des choses et demain, on peut les perdre, on peut tout perdre.
Les patrons de discothèques fermés depuis mars 2020 sont à bout de souffle. Le Conseil d'État vient de rejeter leur demande de réouverture avant le 30 juin dans le cadre du plan gouvernemental de déconfinement. Ils ne devraient pas être fixés sur leur sort avant la semaine prochaine au mieux. Au début de la crise, la fermeture s'est imposée comme une évidence. Proximité, brassage de population, transpiration et expectoration sont en effet le lot de ces établissements. Mais les exploitants soulignent leur capacité d'adaptation aux protocoles sanitaires. Et ils mettent en avant leur rôle social pour une population en quête de rencontres et d'insouciance.
C'est un lieu de vie, tout simplement. On a marié ici un nombre incalculable de personnes parce qu'ils se sont rencontrés au tango.
Avant la pandémie, les discothèques subissaient déjà une crise. Le streaming permet d'écouter toutes les musiques en restant chez soi. Et les applications dédiées permettent des rencontres aussi faciles, voire plus, que sur les pistes de danse. Résultat, il y avait début 2020 deux fois moins de discothèques qu'il y a 30 ans. L'épidémie aurait donc accéléré le mouvement, contraignant à la fermeture au moins 150 des 1600 discothèques françaises. Quelques dizaines d'autres sont soit en procédure de sauvegarde, soit en redressement judiciaire. Le secteur emploie 42 000 personnes. Et malgré les aides de l'État qui a mis en place un fonds de solidarité, la santé de beaucoup d'établissements est plus que vacillante.
Souvent, les montants de loyer sont le double ou le triple de ce qu'on peut rencontrer en restauration. Vous avez le prix de l'assurance aussi. Et je ne vous parle même pas du salaire. Ça fait 15 mois que ces patrons d'établissements n'ont plus un euro de salaire.
La nuit reverra-t-elle le jour ? C'est un reportage de Géraldine Allot avec Raymond Albouy, Thomas Robin et Benjamin Thiot à la prise de son.
Mesdames et messieurs, il est 10h20. Dans quelques minutes, notre TGV arrivera en gare de Rennes.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Je vous en prie, soyez les bienvenus.
Il y a un chat qui renifle le micro.
Oui, elle aime la compagnie.
Dominique Rousseau, vous étiez patron du Stanley depuis 12 ans. Le Stanley, c'était une institution des Nuits Rennaises, une discothèque située à Saint-Grégoire, tout près de Rennes. Vous avez déposé le bilan en novembre dernier. Alors avant de revenir sur ce qui vous a poussé à fermer définitivement, on va parler un petit peu du Stanley. C'est quoi le Stanley ?
Le Stanley a été créé en 1976 et ce lieu magique accueillait une clientèle de tous les âges et avait surtout une réputation d'accueillir de nombreux étudiants. Donc toutes les facultés de Rennes et de la banlieue rennaise venaient faire leur soirée étudiante au Stanley. Pour la petite anecdote, le Stanley a eu le plaisir d'accueillir en tant que DJ Pascal Obispo et Étienne Dao, juste avant de faire la carrière, et la suite on la connaît, voilà ce qu'était le Stanley. Beaucoup d'artistes y sont passés, il y a eu Vanessa Paradis, Morane, il y a eu l'affaire Louis Trio à l'époque, Axel Bauer, et je vous en passe, et des meilleurs.
Du rock au Stanley. Depuis le 25 mars 1976, cette bâtisse du 17e appartient au patrimoine local et festif de Rennes. Dès que l'on prononce le célèbre nom de la discothèque mythique, fougue et brin de folie, les yeux des fêtards s'épanouissent.
Ça te rappelle le bon temps, ça ?
Ah bah oui.
Hein ?
Toute ma jeunesse.
Merci.
En 2008, vous reprenez le Stanley. Vous êtes en gérance avec un associé. En 2019, il y a une baisse de fréquentation et donc vous sollicitez le tribunal de commerce qui vous place en redressement judiciaire. La fréquentation repart à la hausse et puis le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, le tribunal de commerce, comme il n'y avait pas de visibilité, alors que nous étions sur une ascension, nous faisions 36% de chiffre d'affaires en plus que les mois précédents, eh bien, ces messieurs-dames ont décidé une fermeture définitive.
C'était en novembre dernier.
Le 4 novembre, une journée terrible, hein, lorsque nous sommes sortis avec mon associé Alexandre du tribunal, nous étions totalement déstabilisés, démoralisés, on n'a pas eu le choix.
C'est le Covid qui vous a achevé ?
Totalement, parce que il faut savoir qu'une société en redressement judiciaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce n'est pas la fin, c'est-à-dire qu'on redresse l'entreprise pour lui donner justement un ballon d'oxygène. Eh bien, avec le Covid, vous n'aviez droit à aucune aide. C'est-à-dire que les 10 000 euros prétendus, on n'y avait pas droit. Donc,
du fonds de solidarité.
Du fonds de solidarité. C'est-à-dire que un garagiste, un boulanger, un charcutier, un bijoutier qui était en redressement judiciaire avant le Covid ne pouvait prétendre à aucune aide. Donc, c'est un coup de poignard.
En quoi le Covid, finalement, a précipité la fermeture ?
Si vous voulez, nous étions en mesure de tenir, allez, je vais vous dire, 4 mois. Déjà 4 mois de fermeture, c'est énorme quand vous n'avez plus d'argent qui rentre. Et puis, arrivé à un certain moment, justement, le tribunal de commerce, est-ce que je peux comprendre ? Ils disent, on n'a pas de perspective de réouverture. Quand il va falloir payer les factures en retard et principalement les loyers, parce que les propriétaires des murs, Covid, pas Covid, faut pas croire. Ils ne font pas de cadeaux.
Et vous, votre loyer, il s'élevait à combien ?
Écoutez, c'était un gros loyer puisqu'il était de l'ordre de 5600 euros. Donc imaginez un an de fermeture, ça veut dire que si l'activité reprend, vous devez environ 70 000 euros. Donc c'est inconcevable. Quand vous avez misé 12 ans de votre vie et que vous vous retrouvez presque à la rue, parce que nous avons tout perdu, il faut relever la tête. Mais c'est terrible, c'est affreux. Je dis, tant qu'on n'est pas sur le bateau, on peut pas comprendre.
On vous avait proposé, pour débuter ce reportage, de retourner voir le Stanley. Et vous n'avez pas souhaité.
C'est comme un château de cartes. Tout s'est effondré quasiment du jour au lendemain. Donc, sincèrement, j'en suis désolé, mais non, nous ne retournerons plus jamais là-bas.
Alors, je suis Thierry Fontaine, je suis le président de la branche nuit de l'UMIH, ainsi que le président départemental de l'UMI-du-Rhône.
L'UMIH, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration.
Exactement.
Vous êtes propriétaire de 2 discothèques ici à Lyon et également d'une brasserie où on se trouve actuellement. Alors, on vient d'entendre un ancien patron de discothèque qui a dû fermer son établissement à Rennes. À ce jour, à cause de la pandémie, combien de discothèques ont fermé ou sont en grande difficulté ?
Au 31 décembre, on avait recensé au tribunal de commerce 131 discothèques qui avaient déposé le bilan. Donc celle-là, on sait que c'est terminé, hein, c'est perdu. On en a une centaine qui vont vraisemblablement, si ça perdure, aller vers la liquidation. Puisque un tribunal ne peut pas mettre de plan de redressement ou de plan de continuation en place sans perspective de comment on paye ce plan. Donc on est, je dirais, sur des futurs dépôts de bilan si on n'a pas de date de réouverture très rapide.
Ça veut dire que le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, ça ne suffit pas. On va expliquer pour nos auditeurs, les patrons de boîtes de nuit, soit ils touchent 10 000 euros par mois, soit ils perçoivent 20% de leur chiffre d'affaires d'avant le Covid, en versement mensuel. Ça ne suffit pas.
Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça suffit à la restauration pour beaucoup. Hein. Certains ont mieux gagné leur vie, hein. On l'avoue clairement, hein, 60% environ. Certains sont à l'équilibre. Quelques cas ne suffisent pas. Pour les discothèques qui ont des charges bien plus élevées, hein, puisque souvent les montants de loyer sont le double ou le triple de ce qu'on peut rencontrer en restauration. Vous avez le prix de l'assurance aussi, qui est 8 à 10 fois supérieur à un restaurant, puisque les risques en cas d'incendie sont quand même bien plus importants. En effet, sur ce fonds de solidarité, depuis le 1er décembre, ça ne suffit pas à tous les établissements. Et je ne vous parle même pas du salaire. Ça fait 15 mois que ces patrons d'établissement n'ont plus un euro de salaire. Donc ils ne peuvent plus nourrir leur famille, payer leurs emprunts, payer leur eau, leur chauffage, leur électricité. Enfin, tout ça, ce n'est pas possible.
Donc en fait, vous vivez sur votre trésorerie.
Alors, on vit sur notre trésorerie, on vit sur de la dette contractée, c'est-à-dire que beaucoup vivent grâce aux prêts garantis par l'État. Tout le monde le compte dans le montant des aides, enfin tout le monde dans le gouvernement le compte dans le montant des aides. On ne peut pas le compter dans le montant des aides, ce n'est pas une aide. On nous a permis de prendre un crédit pour payer d'autres crédits ou d'autres charges ou d'autres frais. Ce n'est pas une aide. Une solution d'attente, peut-être.
Il faudra le rembourser.
Ah ben, évidemment qu'il faudra le rembourser.
Donc on va regarder avec vous le calendrier du déconfinement tel qu'annoncé par le gouvernement. D'ici quelques jours, réouverture des salles intérieures, des cafés et des restaurants. Mmh. Et à la fin du mois, si tout va bien, possibilité de participer aux événements de plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur. Mais rien sur les discothèques.
Rien sur les discothèques. Alors, il faut quand même savoir qu'en France, les discothèques, sur 1600 établissements qui avaient au départ, donc qui doivent en rester 1450 aujourd'hui hein, à peu près, seulement 45 établissements contiennent plus de 1000 personnes. Seulement 45. 900 de ces établissements font moins de 300 personnes. Donc là, quand on a une possibilité de participer aux événements de plus de 1000 personnes en extérieur et intérieur, on a quand même une incohérence. Moi, je me retrouve quand même à en capacité de comparer ce qui se passe dans une discothèque avec un mariage. On danse, on chante, c'est festif. Il faut en effet qu'il y ait de la justice. L'État n'a pas le droit d'être discriminatoire.
On sait que le risque de contamination est plus important à l'intérieur. Dans les discothèques, on se parle de près, on boit de l'alcool, on danse, il y a beaucoup de contacts. Qu'est-ce que vous proposez pour la réouverture quand elle aura lieu? Est-ce que vous seriez partant pour que l'on montre un test PCR négatif à l'entrée, voire un certificat de vaccination? Est-ce que ça, c'est envisageable pour vous?
Alors, le certificat de vaccination, clairement non. Parce qu'aujourd'hui, dire on va ouvrir des discothèques dont la population, c'est 18-25 ans, et il faudrait qu'ils soient vaccinés pour entrer, ça veut clairement dire vous ouvrez pas avant octobre ou novembre. Sur le test PCR, si les tests rapides sont autorisés devant les portes des établissements pour ceux qui ne seraient pas munis de tests antigéniques ou PCR, on pourrait en effet accepter complètement cette proposition, puisqu'elle est comparable à ce qui va être autorisé dans les concerts. Nous, on ne demande ni plus ni moins à être traités de la même manière. On ne veut pas être discriminés.
Et les masques? Est-ce qu'on va danser avec des masques? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on en a envie?
Alors, envie, non. Mais je crois que le Covid nous a montré que beaucoup d'envie était balayée par l'envie d'en sortir aussi. Danser avec un masque, oui, c'est pas naturel. S'il faut le faire, parce qu'on n'a pas le choix pour ouvrir dans les 2-3 premiers mois, le temps que un maximum de gens soient vaccinés, encore une fois, ça s'étudie.
Pour l'organisation professionnelle qu'il représente, l'UMIH, Thierry Fontaine, que l'on vient d'entendre, en a vainement appelé au Conseil d'État. Il demandait à la plus haute juridiction administrative française de prendre en compte la discrimination dont seraient victimes les boîtes de nuit alors que concerts et mariages seraient autorisés.
Hélas, l'heure n'est pas à la rouverture des discothèques, mais on ne peut pas les laisser tomber. C'est une question d'éthique. Elles sont fermées par décision de l'État, parfaitement fondées sanitairement, et donc nous devons les aider à survivre.
Le rôle social encore joué par les établissements de nuit est difficilement contestable, particulièrement en milieu rural. La discothèque est parfois le seul endroit pour se réunir afin de célébrer certains événements familiaux ou professionnels. On y cherche encore l'âme sœur et on y va même parfois pour l'amour de la danse.
Est-ce que vous êtes là ce soir ?
Interception sur France Inter.
Alors nous mettons le GPS. Voilà.
Géraldine Allot et Raymond Albouy prennent la route pour le Loir-et-Cher.
Alors nous allons quitter la maison de la radio pour aller à Saint-Laurent-Nouan.
Nous sommes tout près du château de Chambord et entourés de vignes. Et voilà, c'est le Tango qui est bien fermé depuis plus d'un an. Bonjour.
Vous allez bien?
Et vous?
Vous voulez un petit café?
Avec plaisir, si vous en prenez un.
Ah bah je vais en prendre un, bien sûr.
Vous pouvez vous présenter au micro?
Sabine Ferrand, propriétaire du restaurant Le Rhinocéros et de la discothèque Le Tango à Saint-Laurent-Nouan, à côté des portes de Chambord. Oh. Hop. Bonjour.
Bonjour, je suis prêt pour arranger les fleurs.
Donc mon mari, tu veux un café, Loulou?
Avec grand plaisir. Un petit expresso.
Comment vous vous appelez ?
Fabrice, de mon prénom.
Merci pour l'accueil.
Mais de rien, avec grand plaisir.
On peut aller voir votre discothèque ?
Avec plaisir, je vous emmène. Donc le concept, c'est que les clients, le vendredi soir et le samedi soir, dînent au restaurant. Et tous ceux qui dînent au restaurant ont l'accès à la discothèque gratuitement par le petit escalier privatif, en fait. Donc c'est un établissement qui a aujourd'hui 40 ans. Il a connu seulement deux propriétaires. L'ancien propriétaire qui est parti à la retraite il y a 10 ans et nous. Faites attention aux trois marches là. Et voilà. Et vous arrivez dans l'antre du Tango. Une institution au niveau régional en Centre-Val de Loire. Nous avons des clients qui viennent un petit peu partout, voire de la région parisienne jusqu'à Montluçon, Orléans, Châteaudun, Châteauroux, Tours, hein. Enfin voilà.
Il y a aux fenêtres des rideaux en cuir rouge,
opaque, oui.
Opaque, des canapés en cuir noir et en velours rouge.
Tout à fait.
On peut aller voir votre bar.
On y va. Donc ici, vous avez toutes les alcools. Vous avez les sirops qui sont fichus aujourd'hui, que nous allons devoir jeter.
Avec la poussière.
Avec la poussière d'un an de... Voilà. Et tout ça, c'est pareil. Tout ça est périmé. Tous les softs, les jus de fruits, hein, tout ce qui est resté dans les frigos.
C'est assez impressionnant, en fait. Le décor ici, il est figé.
Il est figé depuis plus d'un an aujourd'hui, tout à fait. Donc tout ça, ça va aller à la poubelle. Et puis on a aussi nos réserves en bas. Grosso modo, aujourd'hui, j'en ai pour 12 000 euros de perte de soft et de jus de fruits.
Plus d'un an de fermeture, comment allez-vous ?
Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Psychologiquement, c'est très impactant de se dire que va-t-on devenir ? Chaque matin, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à cette situation en me disant mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde ? Et vous imaginez que ça chamboule toute votre vie, professionnelle, privée, et vous vous dites mais on a construit des choses et demain on peut tout perdre.
Alors, il y a des aides de l'État. Qu'est-ce que vous touchez ?
Nous, on a choisi les 10 000 euros par mois. Mais il faut bien se dire que nous sommes restés sans argent depuis le mois de mars, à peu près à septembre-octobre, qu'on ait eu les premières aides. Donc, ça a été très compliqué. Et là, nous avons clairement épuisé notre trésorerie.
Donc, vous touchez 10 000 euros par mois du Fonds de solidarité. À combien s'élèvent vos dépenses mensuelles ?
Les loyers, la maintenance, parce que tout est sous maintenance, les alarmes, la sécurité incendie, tout, les TPE, l'électricité, le loyer, tout bêtement, les assurances qui sont énormes. Hein. Un établissement comme le mien aujourd'hui, c'est quasiment 18 000 euros par an. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, ils nous font payer 18 000 euros alors que nous ne générons aucun chiffre d'affaires depuis un an.
Comment vous vivez ?
Nous travaillons matin, midi et soir, 7 jours sur 7, et nous ne prenons pas de vacances. Nous sommes ouverts 363 jours par an. Donc, nous avons peu de loisirs, ce qui fait que nos salaires étaient plus ou moins mis de côté, ce qui nous a permis de passer à peu près l'année. Mais bon, clairement, c'était pas fait pour ça. Cet argent-là était pour notre retraite. Cet argent-là était pour peut-être un investissement quelconque immobilier personnel. C'était certainement pas pour pallier à un manque de salaire pendant un an.
Et vous avez 10 salariés, c'est ça ?
12.
Et vos 12 salariés sont au chômage partiel ?
Tout à fait, au chômage partiel entièrement. Donc là, vous allez rencontrer Stéphane, Vichy de l'entreprise.
lumière DJ. Ça devrait allumer quelque chose. J'ai coupé. Attends, bouge pas. Il y a des toiles d'araignée dans le tableau électrique. Attends, ça va être bon. Voilà. Bon, l'idée, ça donne ça.
Donc là, nous sommes avec Stéphane, le DJ du tango, qui vient juste de rallumer un petit peu la lumière parce qu'on était dans le noir. Stéphane, vos platines, elles sont recouvertes de poussière. Là, il y avait carrément des torchons pour les protéger.
Exactement.
Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici ? Ça fait plus d'un an que vous n'aviez pas revu vos platines.
Ben, ce que ça fait, c'est surtout le vide. Voilà. Et puis, voilà, on se dit qu'il y a un an qui est passé déjà. Puis que rien n'a changé, que ça avance pas. Ça avance pour certains, certes, mais pas pour nous, quoi. Voilà, c'est ça.
Comment vous vivez depuis un an ? Avec quel revenu ?
Alors moi, ici, je suis prestataire de service. Donc moi, j'ai ma société qui en a subi aussi les conséquences parce que je travaille avec des radios et tout le monde en a pris une claque. Donc on tourne à moins de 50% de chiffre d'affaires. Enfin voilà, quoi. Donc
vous arrivez à vivre ?
Non, vivace. On fait attention, moi j'en profite pour bricoler à la maison, enfin voilà quoi. Mais tout le monde est dans une attente et dans une, pas une tristesse, mais la désillusion, parce que moi je sais que par exemple au mois d'octobre on avait bien cartonné parce qu'on croyait que ça allait repartir, et on nous a coupé le pied fin octobre. Et là ça a été la catastrophe pour beaucoup.
Alors là, c'est le silence total, on entend juste la pluie qui tombe dehors. Mais si on vous demandait un morceau qui met le feu à la piste, ça serait lequel ?
Un truc soleil, pour justement se projeter ailleurs et puis pouvoir voyager sans bouger.
Vous nous le mettez ?
Oh là la vache, tout est collé.
Collé avec quoi ?
C'est le fait, vous savez, c'est le... Quand vous allez dans une boîte, à la fin de la soirée, quand vous marchez, ça colle. Et ben c'est le coca, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que voilà. Et généralement on dit quand ça colle super bien, c'est que la soirée était bonne.
Sauf que là il n'y a pas eu de soirée depuis plus d'un an.
Non, bah plus d'un an. Non, attendez. Non, c'est bon, je dois avoir du son peut-être là. Et bienvenue au tango. Vivant qu'on roule et qu'on fasse danser les gens. Et voilà, prochain numéro.
Fabrice, vous êtes le mari de Sabine, donc vous êtes le co-gérant du tango. C'est quoi la clientèle du tango ?
Alors nous, c'est très spécifique comme clientèle parce que c'est une discothèque intergénérationnelle. On a vraiment toutes les strates de la société en âge, en qualification professionnelle. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un condensé de la vie sociétale dans notre établissement. C'est vraiment intergénérationnel. Il n'y a pas de problème ici de col blanc, de col bleu, manuel, intellectuel. C'est tout confondu. Tout, absolument tout confondu, toutes les couches sociales. Enfin, c'est une diversité, c'est ça la diversité.
Une discothèque en milieu rural, c'est d'autant plus important pour que les gens puissent se rencontrer ?
C'est un lieu de vie, tout simplement. C'est l'interaction sociale avant l'avènement des réseaux sociaux. C'était le seul lieu de rencontre. On a marié ici un nombre incalculable de personnes parce qu'ils se sont rencontrés au tango.
On parle beaucoup de la concurrence, des applis de rencontres, des réseaux sociaux pour se rencontrer, mais aussi de la musique que l'on peut écouter très facilement sur Deezer ou Spotify. Est-ce que ce mouvement-là, quelque part que les discothèques ont pu être démodées, vous l'avez senti ou pas du tout ?
On a été impacté comme tout le monde, hein. Faut pas cacher ça. On a été impacté parce qu'avant, les discothèques, c'était comme vous dites, le lieu d'écouter le nouveau morceau, le dernier truc à la mode. Il n'y avait pas ce phénomène de Deezer ou de consommation sur un téléphone portable. Donc oui, on a été impacté. On l'a ressenti, mais chez nous faiblement parce qu'on a des gens d'un certain âge. Donc nous, notre établissement est très caractéristique. On ouvre à 21h30, une discothèque à 21h30. Pourquoi ? Parce qu'on commence la première partie partie de soirée jusqu'à minuit par de la danse de salon. Donc tous les aînés commencent la soirée et les jeunes viennent participer en début. Et à partir de minuit, on glisse tout doucement sur une musique soleil et au dernier tube actuel. Mais c'est pour ça que les gens restent chez nous, parce que c'est très diversifié. Et les gens se parlent, mais c'est un besoin, c'est viscéral, ils ont besoin de rencontrer l'autre, que ce soit d'une génération au-dessus ou que ce soit de deux générations au-dessus. Notre plus vieux client arrive en début de soirée et c'est le dernier à partir en fin de soirée et c'est lui qui raccompagne les jeunes. C'est la nuit aussi dans ce type d'établissement, c'est de la soupape. La soupape, on se fait plaisir, on vit une autre vie, on s'invente peut-être une vie, hein, attention, hein, y a des gens qui, quand même, des jeux de rôle, vous voyez ce que je veux dire, ils s'inventent une vie, mais ils ont la reconnaissance de l'autre qui est en face. Et ça, la reconnaissance, c'est important dans notre société. C'est le plaisir de plaire à l'autre, ou tout du moins de mettre ses plus beaux attributs pour pouvoir plaire à l'autre. Parce que là, c'est pas les réseaux sociaux, hein, c'est la vraie vie, on se regarde, on s'observe, et on s'apprécie, ou alors on se fait conduire et on passe son chemin. Mais ça, c'est la vie de tous les jours.
Oui.
Passez nous voir.
Oh
bah
mon
Christophe. Eh bien alors, comment ça va?
Je suis content de te voir, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vu.
Ça fait un bout de temps, oui.
Vous êtes un client?
Oui, tout à fait, oui. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je viens dans cet établissement. J'ai même rencontré mon épouse ici. Hein. Voilà, on vient aussi dans nos campagnes, dans ces endroits hein, qui sont très agréables.
Alors on va s'asseoir?
Eh bien on s'assoit.
À côté de vous?
On s'assoit,
Quel âge avez-vous?
Bien, je suis un quinca.
Vous avez rencontré votre femme ici?
Oui, tout à fait. J'ai rencontré ma femme ici après une séparation, un divorce. Voilà, après des longues soirées d'hiver à pas savoir quoi faire et puis avec le vague à l'âme, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai dit, bah tiens, en fait, compte, ça existe toujours, le tango. Je vais aller faire un tour au tango tout seul. C'est vrai que je vais assez vers les gens, donc bah, je me suis mis à discuter avec... plusieurs personnes, et puis ben, à un moment, au bout d'un quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, ça s'est fait comme ça, tout simple, elle aussi, ça faisait des années qu'elle venait, suite à une séparation, mais elle n'avait pas forcément rencontré quelqu'un qui lui correspondait, et ça fonctionne tout le temps depuis 10 ans maintenant, voilà. Ici, on n'est pas devant un écran, on est devant des gens, soit ça match, soit ça match pas, puis aussi, c'est pas forcément rencontrer une personne avec qui on va vivre ou quoi que ce soit, mais ça peut être un copain, ça peut être une amie, pour avoir des échanges. C'est ça qui est important, et les gens ont besoin d'échanger. La société fait que maintenant, on est individualiste. On est devant notre téléphone, et voilà, on tchatche, ou voilà, c'est pas ça, la vie. Enfin, je sais pas, on a besoin d'échanger et avoir une relation avec les gens. C'est ce qui fait avancer, c'est ça qui nous fait évoluer dans la société.
Geneviève.
José.
Geneviève et José, vous avez quel âge?
76 ans.
Et 78.
Et vous êtes des habitués du tango?
Tout à fait, depuis 25 ans. Et nous nous sommes connus
ici.
Au tango.
Vous ici. Avez votre table attitrée depuis des années. Vous nous montrez?
Alors, avant nous déposions notre vestiaire.
Et on venait ici ce soir.
Notre place.
Notre place.
Ici.
Et on avait une coupe de champagne, etc. Donc,
Et on dansait les danses de salon. Et ensuite, au bout de vers quelle heure? Minuit et demi, la clientèle arrivait. Le DJ commençait à envoyer d'autres styles de danse, etc. Et nous dansions parce qu'on passait toute la soirée à danser. Et je peux me permettre de dire que beaucoup nous regardaient parce que nous avions une façon de danser qui était quand même... pas tout à fait comme tout le monde, et on venait nous féliciter, etc. Et c'était quelque chose de très agréable, bien sûr. On danse le tango, la valse, le passo, le rock, enfin toutes les danses qui sont un petit peu plus animées, à notre rythme à nous.
Vous, Geneviève, vous êtes vaccinée,
oui.
Pas encore vous, José. Vous imaginez une réouverture avec un test qu'on doit montrer à l'entrée? Wow. Ça, vous l'imaginez?
Absolument, absolument. C'est le test pour moi qui prédomine.
Vous avez hâte?
j'ai hâte de retrouver cette ambiance, parce que nous venions tous les samedis. On retrouvait beaucoup d'amis. Disons que ça nous reboostait pour la semaine. On pensait après à nouveau à sortir. Le vendredi soir, vous allez sourire, mais quand je me couchais, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais me mettre demain? Et c'était un but, ces sorties. Puis de se retrouver entre amis et de passer des soirées. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites maintenant, Geneviève, de vos samedis soirs?
On regarde la télévision, bien entendu, pour passer le temps. Nous avons une vie sans goût, sans sel, insipide.
C'est déprimant, tout ça, c'est déprimant. Voilà.
Vous pouvez nous montrer un pas de tango? Le sourire que vous avez là, vous dansez sans musique et vous avez le sourire qui éclaire vos deux visages.
Bien.
C'était Geneviève et José, 76 et 78 ans.
Voilà.
C'est vrai que...
Ça nous manque.
Énormément.
Interception sur France Inter.
Je voudrais préciser qu'il y a tout un secteur d'activité dont on ne parle jamais. Jamais. Ce sera les discothèques, ce sera les bars à ambiance musicale, les restaurants à ambiance musicale, les cabarets, les bowlings, les clubs.
Le héros des patrons de boîtes de nuit, leur relais dans le monde politique, s'appelle Christophe Blanchet. Député du Calvados et lui-même créateur d'un établissement il y a près de 30 ans dans sa Normandie natale, il milite avec force pour la réouverture.
Ne riez pas mes chers collègues, parce que c'est tout un secteur d'activité. C'est tout un secteur d'activité qui est sur tous vos territoires et qui fait la dynamique de vos communes et l'attractivité.
Sa première intervention sur le sujet à l'Assemblée nationale lui avait valu sarcasmes et quolibets de la part de ses collègues. Mais l'élu MoDem poursuit sa croisade. Il prêche désormais pour l'usage du pass sanitaire à l'entrée des boîtes de nuit. C'est dans son bureau, à l'Assemblée nationale, qu'on retrouve Géraldine Allot.
C'est quoi le risque, selon vous, de maintenir les discothèques fermées? C'est que les fêtes clandestines se multiplient, il y en a beaucoup, on l'a vu encore récemment.
Le risque, c'est de ne pas encadrer des jeunes et des moins jeunes qui veulent vivre, qui, depuis 16 mois, ont participé avec nous à la lutte contre la Covid, se sont restreints, et aujourd'hui, ils veulent vivre. Ils veulent vivre, s'amuser, se rencontrer. On voit la limite des réseaux sociaux, des sites de rencontres par Internet. Les jeunes veulent voir, se voir, et il y a un moment, il faut les écouter. Le risque à ne pas permettre que les discothèques puissent les accueillir de manière protégée, parce qu'il n'y aura pas de mineurs, parce qu'on contrôle l'alcoolémie, parce qu'on vérifie qu'il n'y a pas de drogue, de stupéfiants. C'est de voir la clandestinité s'installer, et cette clandestinité, avec toutes les dérives qu'il y a pu y avoir l'été dernier, sexualité non consentie, décès, dans des piscines privées notamment, accident de la route, tout le panel de tout ce que la nuit, quand elle n'est pas encadrée, peut déployer. Mais là, aujourd'hui, le risque, il est là. Mais au final, le risque, c'est d'être déconnecté totalement d'une tranche d'âge qui se dira, vraiment, on est des incapables, on ne les comprend pas.
L'an dernier, vous aviez évoqué les difficultés des boîtes de nuit devant vos collègues députés, puis certains avaient haussé les épaules, voire rigolé. Comment vous expliquez cette déconnexion avec ce monde de la nuit?
C'est beaucoup de méconnaissances et beaucoup de fantasmes, la nuit. Depuis les années 95, le secteur de la nuit s'est professionnalisé. Ce sont des chefs d'entreprise, des gestionnaires. Vous avez utilisé un terme que moi, je n'utilise plus, milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, il a existé dans les années 80-90. Moi, je parle du secteur activité de la nuit. Ce sont des chefs d'entreprise avant tout. Et donc, évidemment, quand on évoque le mot, quand je l'ai évoqué pour la première fois l'année dernière dans l'hémicycle, j'ai eu beaucoup de ricanements et de rires. Et j'ai dit à mes collègues, honte à vous, parce que vous parlez quand même de 1600 entreprises, de 45 000 salariés et de tous ces clients, comme s'ils étaient des pestiférés ou autres. De tous ces artistes qui travaillent, ces 10 000 DJ qui font le rayonnement un petit peu culturel de la France qui s'exporte à travers le monde.
1, 2. Alors Cyril Gordigiani et David Guetta.
Que serait David Guetta s'il n'avait pas commencé au bain-douche à Paris?
Moi j'étais plutôt ce qu'on appelle aux États-Unis les DJ de bedroom, c'est-à-dire c'est qui commence par la passion de la musique, de la technique, pour le plaisir, en dehors du business, quoi.
Les ricanements, les rires, je les ai subis pendant 24 ans. Quand j'ai travaillé la nuit avec les autorités hautes, il a fallu prouver qu'on est des entreprises comme les autres, qu'elles sont des entreprises comme les autres, que ce sont des professionnels responsables. Il y a toujours des brebis galeuses, mais si vous me citez un seul métier où il n'y a pas une brebis galeuse, je prends tout de suite. Ce que je regrette, c'est que 25 ans après, il y a encore des stigmates de ceux-là qui existent dans quelques ministères avec des prérogatives intellectuelles qui méconnaissent la réalité. Vous savez, sur une tombe au Père Lachaise, il est marqué « J'ai vécu la nuit parce que je savais que j'allais mourir un jour ». Ça veut tout dire. Tout le monde, à un moment, est sorti la nuit. Peut-être une fois dans sa vie. Peut-être un peu plus pour d'autres. Mais la nuit, c'est un exutoire. C'est un défouloir. Toutes celles et ceux qui travaillent la nuit peuvent vous dire qu'on voit tout la nuit. Et on sait beaucoup de choses. Et on est souvent un palier pour éviter que le client fasse plus, peut-être, ou pire. Et à côté de ça, il y a l'aspect festif, parce que les jeunes ont besoin de vivre, et pas que les jeunes. J'ai beaucoup de clubs qui, aujourd'hui, me disent « Moi, ma clientèle, c'est des quarantenaires. Ils s'attendent de se retrouver. » Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 18 millions de célibataires en France, et que les réseaux sociaux, c'est bien, mais à un moment, on veut se retrouver. Et donc, se retrouver au musée, c'est sympathique, mais ça fait beaucoup moins de connexions que si on se retrouve dans un bar ou un restaurant ou une boîte de nuit, quoi. Mon inquiétude, et je l'avais déjà dit au gouvernement au mois de décembre, dans une question au gouvernement dans l'hémicycle, c'est que la France s'ennuie. Et il y a un moment, quand les Français s'ennuient trop, mais ils sont capables de tout.
Les autorités ne semblent donc pas pressées de rouvrir les discothèques pour des raisons sanitaires, mais pas seulement. Il y a beaucoup de méfiance entre les pouvoirs publics et les acteurs de la nuit.
Les pouvoirs publics et la nuit, c'est quelque chose qui s'articule mal.
C'est l'avis du géographe Luc Wiadzinski, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, que nous avons joint par WhatsApp.
Ça fait des années qu'avec d'autres, on travaille sur la nuit, que ce soit dans la recherche, dans la tentative de faire émerger des politiques publiques, et qu'on voit la difficulté à aborder, si vous voulez, la nuit, c'était comme une espèce de terra incognita, une terre inconnue. Au mieux, on la contrôle, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Les pouvoirs, en cas de crise, on s'en sont toujours pris à la nuit. La première liberté qu'on supprime en cas de crise, c'est celle de circuler dans la ville la nuit. C'est lié en partie à la morale, c'est lié à la peur qu'on a de la nuit, c'est lié à la peur qu'on a aussi de la jeunesse, et aussi, d'une certaine façon, à la peur qu'on a de ce qui nous échappe, de ce qu'on peut pas contrôler, et notamment de la fête sur laquelle on projette un certain nombre de fantasmes. Mais paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, la Covid pose un problème à la nuit, elle est très impactée, mais en même temps, elle a permis une mobilisation des acteurs. C'est la première fois que je vois tous les acteurs travailler ensemble. Deuxièmement, aller vers les pouvoirs publics en disant « voilà, on a envie de travailler avec vous pour trouver des solutions et faire des propositions ».
Mais est-ce que les discothèques vont survivre à cette période de pandémie ? Est-ce qu'elles vont survivre après plus d'un an de fermeture ?
Je le souhaite parce que c'est essentiel à la vie d'une cité, parce que sinon on va se retrouver dans des logiques de friche, et de la même façon qu'il y a eu des reconversions industrielles et des reconversions commerciales, il faudra des reconversions, on aura des friches de nuit et on aura nécessité de réfléchir à des reconversions. Ça, c'est l'extrême. Mais je crois important qu'on réfléchisse à d'autres possibilités. Il y a des pistes à imaginer, et dans ces pistes-là, il y a peut-être cette clé d'entrée qui semble aujourd'hui centrale dans le monde d'après, si on peut encore utiliser ce terme, c'est comment on utilise l'extérieur, comment on utilise l'espace public, comment on utilise le hors les murs de la discothèque. Peut-être qu'il y a quelque chose, une hybridation de l'offre entre l'intérieur et l'extérieur pour être capable de réfléchir à une adaptation. Peut-être que ces boîtes, elles peuvent aussi fonctionner sur une offre de nuit et puis une offre de journée sur autre chose, des logiques peut-être de tiers-lieu. Enfin, il y a quelque chose de toute façon qui est en train de se passer dans l'hybridation du numérique, du face-à-face, de la nuit et du jour. Donc moi, je crois qu'il y a des solutions. Je trouve que ce qui est le principal par rapport à la nuit, c'est un, qu'on fasse un peu le jour sur ces acteurs, qu'on les connaisse, et puis deuxièmement, qu'on leur fasse confiance. Parce que si on ne leur fait pas confiance et qu'on ferme tout, de toute façon, on aura besoin de la fête, de toute façon, on aura besoin de la rencontre, et au mieux, ça ne se fera pas, on finira complètement frustré et violent, et sinon, ça se fera, mais ça sera de façon inorganisée, avec des risques à un moment donné. Et s'il y a des risques, il y aura stigmatisation, donc ce sera la stigmatisation des jeunes, de la nuit, et c'est un cercle sans fin. Donc n'ayons pas peur de la nuit.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Belfort, Montbéliard, TGV. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire jusqu'à la sortie de votre gare d'arrivée. SNCF et l'équipage vous souhaitent.
Le parking de la discothèque est complètement vide, tellement vide que l'herbe commence à repousser par endroits. Ici, c'est la ville de Mattay, au sud de Montbéliard, 2200 habitants, département du Doubs. Nous allons rencontrer Mustapha Alami et sa femme, Caroline Foy. Il était ambulancier, elle était aide-soignante. Et en 2019, ils ont repris le Cario Club, une discothèque qui s'appelait auparavant La Belle Époque. Ils ont ouvert pendant 9 mois et puis ensuite le Covid a tout arrêté. Bonjour.
Bonjour, bienvenue au Cario Club.
Vous êtes Mustapha ?
C'est ça, oui.
Et Caroline ?
Bonjour, oui, enchantée.
Bienvenue en Franche-Comté.
Ah, ça fait tout drôle de rentrer dans une boîte de nuit, hein ?
Bah, pour le coup, là, c'est une boîte de jour. Mais on peut imaginer déjà l'ambiance qu'il peut y avoir les week-ends, etc., quand ça grouille de monde. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu...
C'est vide, hein ?
Glauque, on va dire. Un peu triste.
Donc devant nous, il y a la boule à facettes, des fauteuils en cuir blanc, le bar. Tout est resté figé ou vous avez...
Non, justement, on a profité du confinement de cette période pour pouvoir faire quelques travaux aussi dans la grande salle. Parce qu'on s'est dit que dans un premier temps, quand les boîtes réouvriront un jour, j'espère, avec le protocole sanitaire, ça sera d'abord assis. Donc on a profité pour casser ce bar-là pour pouvoir accueillir plus de monde assis. Donc on a créé plus de tables.
Donc toutes ces banquettes-là, en cuir blanc, elles sont nouvelles.
Voilà, personne ne s'est encore assis dessus.
Donc là, ce sont les travaux intérieurs, mais vous avez aussi fait une terrasse, on peut aller la voir ?
Oui, je vais vous montrer ça. Donc voici la fameuse terrasse qui est presque achevée. On a quasiment tout créé, il n'y avait rien du tout, il y avait une vieille terrasse. Donc on a profité pour faire des gros travaux de création complète d'une terrasse avec bar extérieur, il y aura un DJ à l'extérieur, petite restauration. Parce qu'on s'est dit qu'il y a quelques mois de ça, en janvier, février, quand les spécialistes sur les plateaux TV nous disaient qu'il y avait effectivement 6 à 7 fois moins de contamination en extérieur, quand on va pouvoir réouvrir, ceux qui bénéficient d'un extérieur seront avantagés par rapport aux autres. Donc je me suis dit, allez... On craque un petit coup la tirelire et puis on va se mettre à faire des travaux. On va créer notre propre terrasse avec un service restauration, etc. Voilà. Ne serait-ce que pour le terrassement, les murs, etc. On est aux alentours de 30 000. On va arriver à 40 000 euros.
Comment vous avez fait pour financer ces travaux, sachant que vous n'avez pas de rentrée d'argent ?
Ben nous, on a eu la chance d'avoir le fameux PGE, le prêt garanti par l'État. On a eu une bonne gestion, donc on a gardé des sous et la comptabilité était saine. Donc le banquier n'a pas eu de soucis, il nous a fait confiance. Donc on a fait un PGE de 100 000 euros.
On va décrire un petit peu votre terrasse. Donc elle est flambant neuve, il y a des pierres de taille qui la délimitent. Qu'est-ce que vous avez mis sur le sol ?
Des dalles.
C'est grand comme espace. Donc en fait, vous n'êtes plus tellement discothèque, vous êtes bar dansant.
Le modèle classique des discothèques pour moi est voué à disparaître. On n'est plus dans les années 80-90 où les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'on peut venir entre collègues faire un after work après le boulot, boire ne serait-ce qu'une bière ou manger, partager un plateau de charcuterie ou quelque chose de ce genre-là. Et si ça leur plaît, à ce moment-là, ils passent de le côté, on va dire, clubbing et puis ils prolongent la soirée. Et quand on regarde les pays voisins, nous, on a voyagé un peu en Italie, en Espagne, le modèle classique de la boîte carrée avec un DJ au milieu... Ça fait déjà plus de 10-15 ans, ne serait-ce qu'à Londres, ça n'existe plus. Quoi. Maintenant, c'est des grands complexes où on peut boire un coup, manger et danser tout ça en même temps. Donc nous, on a profité de cette crise pour dire c'est le moment ou jamais. Voilà.
On se retourne vers votre compagne, Caroline Foy. Donc finalement, cette épidémie de Covid, elle vous a permis de vous réinventer pour ne pas disparaître. Est-ce que finalement, elle n'a pas été bénéfique cette période ?
Alors bénéfique, j'irai pas jusque-là parce que ça a été très compliqué quand même pour nous. Mais c'est vrai que ça nous a permis justement de créer justement les travaux qu'on avait prévu de faire dans 5 ans. On a pu les faire tout de suite. On essaye d'aller de l'avant et puis d'être optimiste.
J'ai jamais su danser dans les...
Les jeunes vont revenir en discothèque? Ils n'en ont pas perdu l'habitude en un an?
Ah non, justement, nous on le voit par rapport... on fait des travaux depuis 3-4 mois et à toutes les semaines, il ne se passe pas une journée où on n'a pas des clients à nous qui nous interpellent sur nos réseaux, nous envoient des messages vite que ça ouvre, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Certes, ils ont dû s'adapter en faisant des fêtes plus à la maison, alors plus ou moins clandestines, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les jeunes, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on a 20 ans qu'une fois, donc les jeunes, ils sont obligés de se réunir entre eux dans les appartements. Mais c'est vrai que le fait d'aller dans une discothèque, se préparer, se faire beau pour venir rencontrer d'autres personnes, avec ce manque-là, on sera à plus d'un an de fermeture. Là, de toute façon, à partir du moment où ça va réouvrir, ça va cartonner, c'est obligé. Ça va être le feu. Allez, on met un petit son. C'est parti. Moi, je...
La nuit reverra-t-elle le jour? C'était un reportage de Géraldine Allot avec une prise de son de Raymond Albouy, Thomas Robin et Benjamin Thuot. Reportage déjà disponible sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage Manon Houssin. La semaine prochaine, la 5G, aubaine ou aveuglement technologique. Un reportage d'Anaël Verzo. Dans quelques minutes, on retrouve Eva Bester et son invitée Adeline Dieudonné pour Remède à la mélancolie.